voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue à chacun d'entre vous en particulier, ceux qui sont venus de loin, ceux qui sont venus de plus près. Rav Amadrat Meller, le fait d'être nombreux ce soir permet de prendre un peu plus la mesure de l'ampleur de l'événement. Vous savez que chez les Hassidim, peut-être qu'ils se lèvent, a une importance particulière. Et je voudrais en quelques mots vous rappeler l'historique des événements de l'époque. Lorsque la Chassidoute a commencé à se structurer en Russie, un mouvement d'opposition s'est développé également. Et puis les opposants à la Chassidoute ont pris le prétexte du fait que l'Admour Hazakan, le fondateur de Chabad, avait organisé une collecte de tzedaka en Russie qu'il adressait aux Hassidim qui se trouvaient à l'époque installés en Eretz Israël et qui n'avaient pas la possibilité d'assurer eux-mêmes les moyens de leur subsistance sur place. Donc c'est l'Admour Hazakan qui a organisé cette collecte de façon systématique dans toutes les villes où il y avait des communautés hassidiques. Et à l'époque, la Palestine dépendait de la Turquie et la Russie était en guerre contre la Turquie. Et les opposants à la Chassidoute se sont servis de ce prétexte pour accuser l'Admour Hazakan d'intelligence avec l'ennemi. Il a donc été mis en prison. Juste après la fête de Shavuot, après la fête de Sukkot, il est resté en prison pendant 53 jours, qui correspondent aux 53 sidrot de la Torah, aux 53 chapitres du Tanya. Et le 19 Kislev, il a été libéré. Et à partir de cette date, la diffusion de la Chassidoute a reçu une impulsion nouvelle. L'Admour Hazakan a pu diffuser son enseignement beaucoup plus largement qu'auparavant. L'Admour Hazakan nous explique lui-même que chaque événement tel qu'il se déroule en bas dans le monde est uniquement l'écho, la résonance d'un événement spirituel, d'un événement qui affecte les sphères qui nous dépassent, qui affecte les mondes plus hauts que les nôtres. Et tout ce qui se passe dans le monde n'a pour but que de nous permettre de comprendre ce qui se passe là-haut. L'Admour Hazakan nous dit que le fait que lui-même ait été emprisonné est la preuve que là-haut également il y avait un procès, que l'homme également a été jugé, sa manière à lui de diffuser la dimension profonde de la Torah de façon à pouvoir la mettre à la disposition de chaque juif. Lorsque l'Admour Hazakan, pour la première fois, a structuré l'enseignement du Baal Shem Tov, l'enseignement de la Chassidoute, de telle façon que chacun puisse avoir accès aux parties de la Torah qui jusqu'alors étaient réservées à une élite intellectuelle et en même temps à une élite morale, alors le tribunal céleste s'est posé la question, est-ce que le moment est venu de diffuser aussi largement les secrets de la Torah. Et lorsque l'Admour Hazakan a été libéré de prison, eh bien c'est que, en haut, dans le tribunal céleste, le verdict a été rendu. Chaque juif doit, de nos jours, avoir accès à cette dimension ésotérique de la Torah, utiliser cette chance inouïe qui est accordée à notre génération, la possibilité d'accéder à des enseignements de la Torah qui, à d'autres époques, nous auraient été absolument hors de notre portée. Je vous propose, pour que nous puissions tirer ensemble un enseignement de ce jour, d'envisager ensemble un point d'une lettre que l'Admour Hazakan a écrit lui-même lorsqu'il a été libéré de prison le 19 Kislev. L'Admour Hazakan a écrit une lettre qu'il a adressée non pas à l'ensemble du peuple juif, non pas à l'ensemble de ses chassidim, mais à des grands tzadikim, ceux qui, comme lui, étaient les élèves les plus proches du Maguide de Mezritch, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, Rabbi Baruch de Mejbouj, le petit-fils du Baal Shem Tov. Et donc, on aurait pu penser que, s'adressant à de grands tzadikim, s'adressant à ceux qui, comme lui, avaient accès à cette partie profonde de la Torah, la Dvora Zaken fait appel à ces notions de la partie cachée de la Torah pour leur expliquer l'événement. Et nous voyons que, bien au contraire, sa lettre est rédigée de la manière la plus simple. Et la Dvora Zaken nous dit tout d'abord pourquoi est-ce que sa libération a été possible, le 19 qui se lève. La Dvora Zaken nous dit que cette année-là, le 19 qui se lève était un mardi. Yom Sheuch Palbo Kitov. Un jour, ou deux fois, lors de la création du monde, a été prononcé le mot bon. Le second jour de la création, Dieu a séparé les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et dès lors qu'il y a une séparation, rien de positif ne peut résulter d'une coupure, d'une scission. C'est la raison pour laquelle, lors de ce second jour de la création, Dieu n'a pas dit le mot Tov. Et puis ensuite, lorsqu'est venu le troisième jour de la création et que un élément tiers a eu la possibilité de réconcilier l'antagonisme des deux éléments précédents, alors à ce moment-là, Dieu a dit bon, non seulement pour ce troisième jour de la création, mais également pour le jour précédent. Et vous voyez ici une idée fondamentale de la chassidoute qui a été parfaitement illustrée par le film que nous venons de voir. L'idée fondamentale véhiculée par la chassidoute, c'est l'amour profond que chacun doit éprouver pour un autre juif. Parce que aller à la rencontre de l'autre, c'est rechercher sa propre perfection. C'est uniquement au contact de quelqu'un qui est différent qu'on peut arriver à se parfaire soi-même, à éclairer sa propre personnalité à la lumière de ce que quelqu'un d'autre peut apporter. Et aimer un autre juif, l'aider à prendre conscience de la valeur de la Torah et des mitzvot, c'est faire en sorte que quelque chose de plus en soi se réveille. Et de cette façon-là, la chassidoute libère chacun des limites inhérentes à ses personnalités. Dieu nous crée dans un monde limité. Dieu fait que nous devons affronter le voile à chaque pas de notre existence. Et puis, la chassidoute vient nous dévoiler un enseignement extrêmement fort. Comment est-ce qu'on peut vaincre l'obscurité du monde? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire que le voile ne soit plus obscur? C'est au contact d'un autre juif. En s'enrichissant de ses différences, en essayant de faire que chacun, quel que soit son comportement, quel que soit ses traits de caractère, puisse converger vers une même façon de servir Dieu qui ne remet pas en cause la particularité de chacun. Voilà la première idée que la Dvora Zaken nous souligne au moment de sa libération. Ma perfection n'est pas une véritable perfection tant que d'autres juifs qui se trouvent à portée de mon influence n'ont pas atteint le même niveau de prise de conscience, n'ont pas apporté la richesse de leur personnalité au service de Dieu. Et nous voyons que dans notre génération, le rabbi est arrivé à donner une dimension énorme à cet enseignement que la Dvora Zaken nous a légué, en lançant des campagnes de mitzvot qui ont fait le tour du monde, qui ont changé la face de la planète, comme on l'a vu, comme ces images viennent de nous le démontrer. Et le rabbi nous a montré que chacun peut échapper aux limites du quotidien pour arriver à être différent, pour arriver à ce que les entraves d'hier ne soient plus les entraves d'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle le rabbi nous a dit que l'aboutissement de tout ça, c'est l'avenue du Mashiach. Le rabbi nous a promis que l'avenue du Mashiach est imminente, que le Mashiach peut se dévoiler d'une seconde à l'autre, et le rabbi répète constamment que chacun de nous se trouve sur une balance en équilibre, que le monde entier se trouve sur une balance en équilibre, et qu'une seule bonne pensée, une seule bonne parole, une seule bonne action peut permettre de faire pencher sa balance personnelle et la balance du monde entier du côté du bien. Et donc, lorsque nous voyons ce que le rabbi nous a promis, si nous réfléchissons de quelle manière on peut faire en sorte que la promesse du rabbi, la vision du rabbi, se dévoile effectivement dans le monde, où est-ce qu'il y a un blocage? Pourquoi est-ce que les mots du rabbi ne se sont pas encore dévoilés maintenant? Peut-être parce que, même si au niveau théorique, chacun comprend parfaitement la justesse des mots du rabbi, alors Dieu a fait que dans notre personnalité, il y a souvent un gap, un passage difficile entre l'intellect et le sentiment. Une fois, quelqu'un a été reçu par le rabbi, et quelqu'un a dit au rabbi, au cours de cette entrevue, vous nous répétez toujours que le Mashiach arrive d'une seconde à l'autre. On a compris que le Mashiach arrive d'une seconde à l'autre. Pourquoi est-ce qu'il faut le répéter sans cesse? Une fois que vous nous avez dit que le Mashiach arrive, chacun le sait. Et le rabbi lui a répondu, pouvez-vous me prêter 18 000 $ jusqu'à l'avenue du Mashiach? Et tout d'un coup, les choses prennent une forme différente. Lorsqu'il ne s'agit pas uniquement d'une vue de l'esprit, mais de quelque chose qui s'applique concrètement. On raconte également que le rabbi précédent, lorsqu'il a perdu sa mère, sanglotait profondément. On sait que le rabbi précédent était un homme extrêmement sensible. Et puis, les chassidim se sont posé la question, malgré toute sa sensibilité, pourquoi est-ce que le rabbi précédent pleure à ce point? Et un des proches lui a demandé, peut-on faire quelque chose pour calmer le rabbi? Et le rabbi précédent a répondu, je prends conscience que ma mère ne sera pas présente au moment où le Mashiach viendra. Les rabbis sont venus nous montrer qu'on peut vivre physiquement avec les enseignements de la Torah. Et c'est un enseignement simple que chacun de nous retiendra de celui tête qui se lève. Le but de la chassidout, c'est de supprimer la distance qu'il peut y avoir entre une vision théorique des choses et l'existence quotidienne. Chacun d'entre nous comprend que mettre les tefillin tous les jours est un acte du service de Dieu. La chassidout vient nous montrer qu'on sert Dieu en marchant dans la rue, qu'on sert Dieu en s'asseyant à table, qu'on sert Dieu en allant à son travail, et que l'acte le plus banal de la vie quotidienne peut devenir un acte intense du service de Dieu. Et c'est à cette remise en cause de soi-même que Yutet Kislev nous invite, comme tous les Yamim Tovim qui ont été fixés en exil, Yutet Kislev dure 2 jours, puisque le rabbi a été concrètement libéré le 20 Kislev et non pas le 19. On a l'habitude de dire que ce Rosh Hashanah de la Chassidout dure effectivement 2 jours. Nous avons 48 heures devant nous pour réfléchir de quelle façon nous pouvons être Tov les Shamaim et Tov la Briot. Nous pouvons associer notre service de Dieu avec la perfection de l'action concrète. Et si pendant ces 48 heures, chacun sait appuyer sur le bouton, on doit appuyer, alors, Dieu fera qu'avant la fin de ces 48 heures, nous serons dans le Beit HaMikdash reconstruit et nous assisterons au Fabringen de Yutet Kislev du Rabbi à l'intérieur du Beit HaMikdash.